Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la 100e émission Libre à vous, et donc ce sera une émission spéciale avec notamment une nouvelle chronique, de nouveaux jingles, un sujet principal intitulé Au cœur de l'April, de Libre à vous et de Cause commune. Nous vous parlerons de l'April, de certaines de nos actions, des coulisses de l'émission, de la radio, vous en saurez plus sur des personnes actives. Nous répondrons à vos questions si vous en avez, il y aura des choses à gagner, une session en visioconf après l'émission pour échanger avec vous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toute question. Nous sommes mardi 30 mars 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors j'espère que l'émission va bien se passer car la plupart des gens sont à distance et j'espère que moi j'ai décidé d'adopter aujourd'hui la positive attitude, mais j'espère que vous n'entendrez pas trop ma toux dans le micro. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune pour participer à notre conversation. causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Alors, dans les annonces, nous avons des nouveaux jingles. Vous venez d'entendre la voix de Laure Élise Déniel, qui a une formation d'actrice et qui nous a fait quelques jingles. Donc, c'est un montage de test. Hein. Les montages vont être refaits parce que les conditions d'enregistrement des jingles n'étaient pas forcément idéales. Mais en tout cas, voilà, un nouveau jingle et il y en aura d'autres au cours de l'émission. Alors, une fois cette partie de jingle, on va passer juste à deux annonces importantes que je préfère faire en début d'émission vu qu'elles sont importantes et éviter de les faire à la fin parce que peut-être nous n'aurions pas le temps. D'abord, c'est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de Yann Le Polothèque à l'âge de 59 ans. Yann a beaucoup œuvré pour les libertés informatiques, il était connu dans les communautés libristes, notamment pour l'espace du logiciel libre des hackers et des Fab Labs à la fête de l'UMA. Également pour les états généraux de la révolution numérique au siège national du PCF. Après avoir eu de nombreuses responsabilités au sein du Parti communiste français, notamment dans son département de Seine-Saint-Denis, il était depuis l'année 2000 membre de la direction nationale du PCF. La dispersion des cendres de Yann a eu lieu ce mardi, 30 mars à 15h, au cimetière du Blanc-Ménil. L'association April s'est associée à l'hommage qui lui a été rendu. Au-delà de ses actions, Yann était une personne très chaleureuse et attachante que j'ai eu plaisir à côtoyer et nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses proches. Alors sans transition comme on dit, autre annonce, dimanche 21 mars 2021, Richard Stallman, fondateur et ancien président de la Fondation pour le logiciel libre, a annoncé son retour au sein du conseil d'administration de la Fondation. Je vous lis le texte du communiqué de réaction de l'April. L'annonce a été faite en ouverture de sa conférence donnée durant le Libre Planète, l'événement annuel organisé par la Fondation pour le logiciel libre. Richard Stallman avait démissionné de ses fonctions de président et de membre du conseil d'administration le 16 septembre 2019. Cette démission faisait suite à la publication d'échanges liés aux conséquences de l'affaire Jeffrey Epstein, le célèbre prédateur sexuel au MIT, Université et Institut de Recherche Américain. Vous trouverez sur le site de l'April une référence vers le journal Le Monde qui expliquait très bien cette affaire de l'époque. Dans sa vidéo donc récente, Richard Stallman n'évoque pas directement cette affaire, il se contente de dire que des personnes seront heureuses de son retour, d'autres seront déçues et qu'en tout cas il ne prévoit pas de démissionner une seconde fois. Il semblerait que cette annonce ait été une surprise même pour l'équipe d'organisation de l'événement, volontaire et membre de l'équipe salariée de la Fondation. La décision du retour de Richard Stallman au sein du conseil d'administration de la Fondation leur appartient évidemment, mais la Fondation a-t-elle bien mesuré l'impact d'une telle décision sur le logiciel libre et ses communautés ? Et la forme de l'annonce, une très courte intervention sans aucun mot, notamment sur l'affaire de septembre 2019, est problématique. L'April entretient des liens privilégiés avec la Fondation pour le logiciel libre et collabore avec elle depuis 1996. Nous partageons la préoccupation de permettre à toutes et tous d'accéder à la liberté informatique. Nous agissons pour que chaque personne puisse soutenir notre cause, rejoindre notre mouvement et s'y sentir bienvenue. L'April regrette la décision prise par le conseil d'administration de la Fondation pour le logiciel libre. L'association apporte son soutien au personnel de la Fondation et aux personnes qui privilégient la promotion et la défense sereine des logiciels libres en cohérence avec l'objet de la Fondation. Ça, c'était la réaction de l'April. Depuis l'annonce de ce retour, on a appris également la démission de John Sullivan, qui travaillait depuis 18 ans à la Fondation et qui depuis 10 ans en était le directeur exécutif. Je connaissais bien John, qui était un membre fondamental de l'équipe salariée de la Fondation. C'est une grande perte pour la Fondation et la transition sera très difficile. Cela me rend personnellement très triste de le voir partir. Ce fut un grand plaisir de travailler avec John et ma sympathie va également au personnel de la FSF. Voici donc les annonces de début d'émission que je préférais éviter de bâcler à la fin vu leur importance. Avant de prendre le premier sujet, je vous avais annoncé qu'il y avait des cadeaux en introduction. Alors je précise que Matou n'est pas une blague de chat, donc vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs sur le salon web de la radio, hein, causecommune.fm, bouton de chat pour échanger avec nous. Il va y avoir effectivement des cadeaux à gagner, et notamment des CD de l'album Captain, dont nous écouterons tout à l'heure un extrait, sans doute des t-shirts libres à vous, des autocollants. Alors le plus simple, c'est que simplement envoyez-nous des messages, si vous voulez recevoir des cadeaux, vous pouvez l'envoyer sur le site web, donc sur le salon web, hein, causecommune.fm. Bouton chat salon libre à vous. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel via le site april.org ou le site de la radio et nous ferons des tirages au sort, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et nous allons passer tout de suite au premier sujet. Texte, image, vidéo, base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Dans sa chronique intitulée « Pépites libres », Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Aujourd'hui, Jean-Christophe ne va pas nous présenter une pépite, mais va nous présenter les coulisses de la chronique « Pépites libres ». Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors Jean-Christophe, donc dans ces pépites libres, tu présentes des ressources à mettre en valeur. Comment procèdes-tu pour rechercher de nouvelles ressources? Est-ce que tu as déjà un stock pour plusieurs années, enfin plusieurs mois, voire plusieurs années?
Alors pour chercher des ressources pour pépites libres, en fait, je puise surtout dans les communautés du libre, les forums, les listes de discussion, comme celle par exemple de la communauté OpenStreetMap ou Wikipédia, ou encore certaines listes de discussion de l'April, comme la liste du groupe de travail sensibilisation ou du groupe de travail éducation. Je suis aujourd'hui à 17 chroniques pépites libres sur des sujets et des formats variés. J'ai quelques notes d'avance, mais non pas de quoi tenir plusieurs mois et encore même plusieurs années.
Dans la recherche de nouvelles pépites, une spécificité évidemment, c'est l'émission Libre à vous et tu es un libriste, c'est que les ressources que tu proposes sont sous licence libre. Peux-tu nous rappeler ce qu'est une licence libre et pourquoi adopter une telle licence ?
Donc, une licence libre, c'est un texte juridique que l'auteur utilise pour accorder certaines libertés sur son œuvre. Ça s'inspire au départ du logiciel libre et puis on a vu avec le temps arriver de nouvelles licences qui s'appliquent à d'autres types de créations que des logiciels, comme par exemple des musiques, des images, des textes ou encore des bases de données. Les plus connus sont les licences Creative Commons, les licences Creative Commons BY et BY-SA, par exemple, qui sont des licences libres, ou encore la licence ODBL, Open Database License, pour les bases de données.
D'accord.
Donc le principe est simple, l'auteur a un monopole absolu sur son œuvre, c'est lui qui décide ce qu'on peut faire ou pas faire avec son œuvre, qui peut copier, qui peut regarder, qui peut utiliser, écouter l'œuvre. Et la licence libre est un moyen qui permet à l'auteur d'accorder largement un certain nombre de libertés à tous les bénéficiaires de son œuvre.
Et donc, quatre libertés fondamentales. Alors, je précise, parce que je vois sur le salon web que ça commande, que ça discute, une des façons de gagner un des cadeaux, c'est de faire la blague la plus drôle, la plus pourrie. Et pour l'instant, c'est N4MU, enfin N4MU qui, avec Christian Clavier qui gagne la blague, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, licence libre, mais en fait, c'est quelque chose qui est pas forcément tout à fait connu, enfin tout à fait maîtrisé, on va dire plutôt les licences libres, notamment les quatre libertés. Et beaucoup de gens, notamment, utilisent des licences qui ne sont pas forcément totalement libres, hein, qui par exemple interdisent la modification ou la réutilisation commerciale. Donc déjà, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ces limitations. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de toi-même de trouver une ressource intéressante, mais finalement non disponible, soit sous une licence, soit parce qu'il n'y a pas du tout de licence, ou alors disponible sous une licence pas totalement libre, et à ce moment-là, de contacter la personne pour échanger avec elle sur la question de la libération de sa pépite? Quelle est ton expérience là-dessus?
Alors effectivement, le plus bel exemple, c'était celui qui a fait l'objet de ma première chronique, la conférence « Un faible degré d'originalité » d'Antoine Deforme. Donc cette conférence, en fait, il s'agit de la vidéo de captation, donc d'une conférence gesticulée, qui explique en un peu plus d'une heure le principe du droit d'auteur. Et cette conférence était proposée avec une licence effectivement non libre, puisque elle s'accompagnait d'une clause NC, non commerciale, interdisant donc les réutilisations commerciales. J'ai contacté Antoine Defort, l'auteur, pour lui expliquer que cette restriction à l'utilisation commerciale de sa vidéo m'interdisait de la projeter dans des formations d'initiation aux droits d'auteur et aux licences libres pour lesquelles j'étais payé. Et donc, je l'ai encouragé à lever cette clause et à adopter plutôt une licence Creative Commons BY ou BY-SA pour permettre une utilisation plus large de sa conférence. Qu'il a accepté. Et donc, moi, ça m'a permis ensuite, dans des formations d'initiation aux droits d'auteur, dans laquelle j'avais parmi l'auditoire des profils comme des documentalistes ou des médiathécaires, de leur faire connaître cette conférence et de les encourager ensuite à inviter Antoine Defort à venir donner sa conférence en réel dans leur bibliothèque ou dans leurs établissements.
D'accord. Est-ce que tu as d'autres exemples ou est-ce que là c'est un exemple où en fait Antoine Defort a finalement compris ce que tu lui proposais et l'a fait. Est-ce que tu as un exemple où quelqu'un t'a refusé et quel est l'argumentaire utilisé pour refuser?
Alors, j'ai pas d'exemple de refus, mais par contre, j'ai plusieurs exemples de non-réponse. Alors, souvent, effectivement, lorsque d'abord, c'est très difficile de trouver parfois comment contacter l'auteur. Et donc, ça m'est arrivé effectivement d'envoyer un message, mais sans être certain qu'il arriverait à destination. Et ensuite, j'ai lancé des appels plus génériques, parfois dans certaines de mes chroniques d'ailleurs. Par exemple, dans la chronique sur les MOOC, les formations en ligne, je parlais de la plateforme FEM, France Université Numérique, qui propose un grand nombre de formations en ligne accessibles gratuitement, dont la plupart sont mises à disposition sous des licences non libres. Et je n'ai pas eu d'écho suite à cette chronique d'auteurs de MOOC qui auraient décidé d'opter pour une licence libre pour leur formation.
D'accord, merci. Dernière question, Jean-Christophe. Est-ce qu'on te peut te proposer des idées de pépites et comment faire ?
Alors effectivement, je suis tout à fait intéressé qu'on me propose des idées de pépites pour augmenter la diversité des sujets qui sont traités, pour faire connaître des auteurs et des ressources méconnues. Et donc le plus simple, c'est de me contacter par mail jcb, mes initiales comme Jean-Christophe Péquet, apitux.com. Je pense qu'on pourra remettre l'adresse sur la page consacrée à l'émission. Et effectivement, si on m'envoie le lien vers la ressource et encore mieux un pointeur vers la licence pour confirmer qu'il s'agit bien d'une ressource libre, je me ferai un plaisir de creuser le sujet et d'y consacrer une prochaine chronique.
Ben écoute, merci Jean-Christophe, j'encourage chacun et chacune donc effectivement à te contacter pour te proposer une pépite et également écouter les chroniques pépites libres que tu as proposées jusqu'à présent hein, et que tu vas continuer à proposer, donc des ressources sélectionnées pour un intérêt artistique, pédagogique, insolite ou utile et disponible sous licence libre. Donc c'était Jean-Christophe Béquet qui, je le rappelle, est vice-président de l'April. Jean-Christophe, je te souhaite de passer une belle fin de journée. Et à bientôt.
Merci, bonne fin d'émission et à bientôt.
Merci Jean-Christophe. Nous allons faire une pause musicale. Alors l'instant, on parlait de pépites libres. Dans les pépites libres, il y avait non les musiques libres. Je vous disais en tout début d'émission que vous pourriez gagner 5 CD de l'album Captain, artiste français libre que je présenterai juste après. Mais on va justement écouter un titre de Captain. Nous allons écouter le Musée d'Air Contemporain, donc par Captain. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles.
Cause Commune.
C'était l'hiver, le jour de la sortie scolaire, au musée d'air contemporain. La lutte des classes pour les professeurs qui menacent les gamins qui ne contemplent rien. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des armes dans des frigos. Et puis moi, je trouvais ça beau. Un guide austère nous dépeignait l'histoire de l'air. La période bleue, la période noire. Comme si la planète était une grande palette, avec le trou de la couche de jaune. On voyait dans les petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Et puis moi, je trouvais ça chouette. Avant, il y avait de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant la terre, le ciel, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Et puis moi, je trouvais ça beau. Fin de la visite, on se dirige vers la boutique du musée d'air contemporain. Bouteilles d'eau claire, sachets de terre et bonbonnes d'air. Fruits et légumes en parfum. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Et puis moi, je trouvais ça beau.
Nous venons d'écouter un extrait du premier album de Captain, le musée d'air contemporain, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de la musique pour toute utilisation, y compris commerciale. Alors, le nom de l'artiste, c'est Captain, K-P-T-N. Le nom de son premier album, ça s'appelle Flamme. On peut supposer, évidemment, qu'il adore les jeux de mots. D'ailleurs, si vous avez bien écouté, il y en a beaucoup, mais c'est des chansons à texte, à message, avec quelques jeux de mots. Et Captain, donc K-P-T-N, c'est le nom d'artiste d'un informaticien libriste, Clément Houdot, que nous avons reçu dans Libre à vous, édition 96 du 2 mars 2021. Bien sûr, le podcast et la transcription sont disponibles sur april.org et sur causecommune.fm. Le site de l'artiste, c'est kptn.org. Et je rappelle que Clément propose 5 CD de son album à gagner, donc n'hésitez pas à nous contacter pour vous nous dire si vous êtes intéressé, et s'il y a plus de 5 personnes, nous ferons un tirage au sort avec des mains évidemment innocentes si vous êtes trop nombreuses et ou nombreux à écouter, à répondre à notre appel.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Et bien, c'est le deuxième jingle, nouveau jingle de Laure Élise Déniel que nous utilisons. Alors, normalement, il y en a un troisième, c'est uniquement si on a des problèmes techniques. Alors, espérons que nous n'aurons pas de problèmes techniques aujourd'hui, sinon vous l'entendrez. Et peut-être qu'on vous fera quand même écouter si on a un petit peu de temps tout à l'heure. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec un échange avec Élodie Déniel-Giraudon. Alors, Élodie fait partie de l'équipe qui traite les podcasts de l'émission. Dans le cadre de cette émission, un point important concerne en effet la post-production, le traitement du podcast. Car même si nous diffusons en direct de 15h30 à 17h, beaucoup de gens, on le sait, nous écoutent en podcast, et ces podcasts resteront la mémoire et la trace des émissions. C'est pour cela qu'il faut apporter un soin particulier à leur traitement avant la mise en ligne. Et depuis quelques mois, même plus que quelques mois, l'équipe travaille en autonomie. Et j'en profite pour remercier déjà Olivier Grieco, le directeur d'antenne de l'émission que nous aurons tout à l'heure, qui faisait le montage de nos émissions au tout début. Alors, bonjour Élodie.
Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors, c'est un grand plaisir de t'avoir. Alors, je précise que si les gens ont un peu écouté les noms que j'ai cités tout à l'heure, Laure Élise Déniel est ta sœur avec qui tu nous as mis en relation pour faire les jingles, et je t'en remercie.
Mais tout à fait, c'est un grand plaisir de l'entendre.
Alors, première question, déjà, que fais-tu dans la vie, en plus, évidemment, de faire partie de l'équipe podcast de Libre à vous ?
Eh bien, je suis entrepreneur, donc je fais beaucoup, beaucoup de choses différentes. Ça va de l'administratif à la recherche et développement, enfin, un peu, beaucoup de choses.
Et tu es un entrepreneur dans quel domaine ?
Domaine de la pâtisserie.
Ah, ben voilà, donc tu fais
la la recherche et développement, c'est sympa.
J'imagine. Et tu as un site web ?
Oui, oui, oui.
Ah ben c'est l'occasion de faire la pub.
Bah, je suis à Zurich, donc pour les Français qui sont à Zurich.
Mais on a beaucoup de gens qui nous écoutent en Suisse. Cyberculture, par exemple, samedi, un animateur, un co-animateur qui est aussi en Suisse. Donc les Suisses seront intéressés. Donne le nom de ton site web.
Très bien. Alors c'est chouix-etc.ch.
Bon, bah, très bien. On mettra la référence évidemment dans la page consacrée à l'émission. Donc, tu as rejoint l'équipe podcast il y a quelques temps, mais première question au préalable, comment tu as découvert Libre à vous ?
Ben, je suivais les projets de Framasoft, qui est une association qui soutient également le monde du libre. Et vous aviez parlé d'eux dans l'une de vos émissions. Et eux, à leur tour, avaient parlé de vous, du coup. Et c'est comme ça que j'ai écouté mon premier podcast. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai découvert l'April. Et vous faites tous des merveilles. Merci beaucoup pour votre implication.
Merci.
Et joyeux anniversaire à l'émission.
Merci. Alors, en parlant d'anniversaire, d'ailleurs, à la fin de l'année, on espère qu'on pourra fêter les 25 ans de l'April dans des conditions acceptables, c'est-à-dire pas tous chez soi. Mais on aura l'occasion d'y revenir, c'est en fin d'année. Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, au tout début de l'émission, Libre à vous, on essaie de travailler en totale autonomie, déjà parce que la radio Cause Commune, dont on parlera tout à l'heure avec Olivier, a d'autres choses à faire que de s'occuper des émissions. Mais au tout début, c'était Olivier Grieco qui faisait le traitement des podcasts. Ensuite, il y a Sylvain Kutzmann, un bénévole à l'April, qui a fait le traitement. Puis à un moment, Sylvain ne pouvait plus s'en occuper, parce que traiter un podcast par semaine, quand même, ça prend du temps. Donc on a fait un appel à bénévoles, et auquel plusieurs personnes ont répondu, dont toi. Donc pourquoi tu t'es proposé pour faire partie de cette équipe podcast quand on a fait l'appel en bénévole, il doit y avoir un an ou un an et demi maintenant.
Je dirais que c'est par sens de la justice et du partage. En fait, ce sont toutes les deux des valeurs qui me sont très fortes pour moi. Et ça explique aussi certainement pourquoi le libre m'intéresse. Et comme je profitais du podcast chaque semaine, ça me semblait en fait finalement naturel de participer et de m'impliquer dans ce magnifique projet.
D'accord. Et est-ce que tu avais de l'expérience dans le domaine du traitement du podcast avant de candidater pour rejoindre l'équipe ?
Aucune expérience, ni podcast, ni audio, aucune connaissance. Je partais de zéro, contrairement à mes collègues qui ont une expérience carrément solide dans le domaine de l'audio. Mais c'est pas grave, je suis quelqu'un de volontaire, je vous ai répondu. Et puis j'ai commencé, j'ai appris par étapes. Ça s'est très bien passé.
Tu parles de collègues, effectivement, il y avait trois autres personnes qui faisaient partie de l'équipe, donc il y a Languin, Samuel Aubert et Olivier Imbert, donc j'en profite aussi d'ailleurs pour remercier Olivier Imbert qu'on avait reçu dans un Libre à vous en octobre 2019, qui est administrateur du site LinuxMAO et développeur du projet LibraZik, qui avait aussi rejoint notre équipe et qui malheureusement doit arrêter pour raisons personnelles, donc on le remercie pour l'aide qu'il a apportée, son temps et son expertise. Et donc tu as rejoint une équipe où certains effectivement avaient plus de connaissances sur le traitement du podcast. Et donc, en quoi consiste le traitement d'un podcast ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le fichier que vous recevez, qui est l'enregistrement brut de l'émission, qu'est-ce que vous en faites pour obtenir finalement la version podcast que les personnes écoutent après en podcast ?
Alors, c'est vrai qu'on reçoit l'émission brute, donc l'enregistrement qu'on est en train de faire, mais à la base, vous passez aussi les jingles, les musiques, les génériques, tout ça, vous les avez déjà, donc nous, on les récupère de notre côté également. Et ensuite, on les réintègre, enfin, on remplace ces bouts de musique et de jingle dans l'émission. Et par contre, la partie où les gens parlent, où ils sont interviewés, on nettoie tous les bruits extérieurs indésirables. D'ailleurs, bonne chance à mon collègue. Et à la fin, on équilibre tous les niveaux sonores pour que le rendu soit homogène à l'oreille dans les émissions aussi.
Et quelle utilité ? Non, vas-y. En fait, je faisais signe à mon collègue via la visio pour qu'il me réactive le micro. Je précise, oui, tout le monde est à distance, donc les conditions sont assez particulières. Et au moins, il me coupe mon micro pour me permettre de tousser entre deux questions. Quel outil utilisez-vous pour le traitement des podcasts ?
On utilise le logiciel Ardour. Voilà.
Alors, c'est quoi ce logiciel Ardour ?
Alors, c'est un logiciel de... Oula. C'est là qu'on on atteint mes limites techniques.
Alors pourquoi toi tu l'utilises?
Je connais pas le vocabulaire derrière.
Voilà, Ardour fait beaucoup de choses, hein, du montage audio, etc. Toi tu l'utilises pourquoi? Qu'est-ce que te permet de faire Ardour dans le cas du traitement des podcasts?
Mais je sais que Ardour, par exemple, on peut l'utiliser pour faire les enregistrements directement de musique, etc. Et nous, on n'utilise qu'une toute petite partie. De toute la puissance qu'il y a dans ce logiciel, qui est juste le traitement audio et l'équilibrage des niveaux. Voilà.
D'accord. Et traiter un podcast, donc le podcast, il fait 1h30. Alors je précise que sur le salon web de la radio, Olivier Grieco précise qu'Ardour, c'est un DAW. Merci. Je pense que c'est un digital audio workstation. À mon avis, c'est en anglais. Il va me confirmer. C'est une station de travail audio effectivement qui est très complète. Donc l'émission dure 1h30. Combien de temps ça prend en général? Alors, effectivement, il y a des cas sans doute qui sont beaucoup plus longs quand ça se passe mal et qui a beaucoup de plus rare. Mais combien de temps ça prend environ de traiter un podcast de Libre à vous?
Alors c'est vrai que la réponse varie selon les personnes. Je sais que quand j'avais postulé, Sylvain avait parlé de 2 heures, entre 2 heures et 3 heures. Voilà, moi je suis plus proche des 3 heures et je dépasse régulièrement encore. Mais j'ai beaucoup d'aide dans l'équipe et à chaque fois que j'ai une question que je bloque, j'ai une réponse et je peux aller plus loin et plus rapidement. Donc je m'approche des 3 heures.
D'accord. Ah, c'est vrai que je lis un peu vos échanges sur l'équipe podcast. Et d'ailleurs, j'en profite à dire que si des gens veulent rejoindre l'équipe podcast de bénévoles, il faut surtout pas hésiter. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des échanges dont la qualité est assez impressionnante. Et on voit notamment Samuel Hubert qui a une connaissance vraiment des outils et puis aussi de l'audio, de la musique, vraiment d'un très haut niveau. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Qu'est-ce que cette participation à vous t'apporte dans le cadre soit de tes activités ou simplement à titre personnel?
Eh ben déjà, j'apprends énormément de choses. C'est un domaine qui est passionnant. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Et effectivement, quand j'échange avec Samuel, c'est très difficile de m'arrêter parce que il y a deux choses à apprendre. Il a tellement de connaissances. C'est un puits. C'est un plaisir de l'écouter. Il est vraiment dans le partage. Et vraiment, c'est un plaisir de travailler dans cette équipe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance. Beaucoup de partage, et ça, ça booste le quotidien, quoi, en confiance, en amour, c'est parfait.
C'est parfait. Donc, en fait, c'est vrai que bon, Samuel a énormément de compétences, de connaissances, et il le partage. C'est aussi une des forces dans les communautés du logiciel libre, hein, en tout cas, ou des cultures libres, c'est cette force de partage. Mais j'ai oublié de te demander, je me souviens, tu as dit qu'actuellement, tu étais auto-entrepreneur dans le domaine de la pâtisserie. Oui. Mais avant, tu es toujours informaticienne, non?
J'ai une formation d'informaticienne, oui, tout à fait.
D'accord. Est-ce que cette formation t'a aidé ou, tiens, par exemple, si on suppose que quelqu'un voulait aider à traiter des podcasts de Libre à vous ou d'autres émissions de Cause Commune, est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières ou finalement ça s'apprend en fait?
Non, j'ai rien utilisé de mes compétences en informatique pour le traitement du podcast.
D'accord. Alors, je précise qu'il y a une remarque sur le salon web. Alors là, je viens de cliquer à un endroit, il ne fallait pas que je clique, donc je vais retrouver la remarque. Oui, sur la documentation, en fait, les personnes qui sont intéressées pour savoir comment on traite les podcasts, comment on prépare aussi l'émission, tout est documenté sur notre page wiki, hein, sur wiki.april.org, et sur la page consacrée à l'émission sur le site april.org, vous pouvez trouver directement les liens qui expliquent comment on traite... comment vous traitez les podcasts, comment on prépare les émissions. Et j'en profite pour signaler qu'après le traitement de podcast, il y a un autre bénévole de l'April qui est généralement Quentin Gibault qui fait le découpage de l'émission en podcast par sujet, c'est-à-dire que vous, l'équipe, vous traitez le podcast d'1h30 et lui, finalement, le découpe par sujet. En général, on a un sujet principal et deux sujets courts. Exceptionnellement pour cette émission, on va avoir plus de sujets courts et ce qui permet aux gens d'écouter juste le passage qui les intéresse. Et donc, évidemment, ces différents fichiers sont disponibles à la fois sur le site de l'April et sur les outils de podcast. Élodie, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose ou faire passer un message ou un appel?
Non. Merci à tous, à ceux qui écoutent les podcasts, à vous l'équipe, à l'April. C'est une merveilleuse communauté et je suis ravie d'en faire partie et d'aider un petit peu à mon échelle.
Bah écoute, Elodie, nous sommes ravis que tu sois ravie de participer. C'est important, hein, c'est surtout dans certains temps difficiles. Je te remercie. Alors, je vois qu'il y a une question sur la découpe du podcast. Combien de temps ça prend? De mémoire, pour Quentin, ça doit lui prendre une vingtaine de minutes. Sachant que le temps le plus long, c'est de repérer l'endroit où il faut en fait découper, c'est-à-dire le passage horaire. Et ensuite, il y a des scripts qu'on a rédigés qui permettent de générer le découpage des fichiers, de rajouter les images de couverture, etc. Donc voilà, une vingtaine de minutes. Donc c'était Elodie Daniel-Giraudon qui fait partie de l'équipe qui traite les podcasts de l'émission. Si vous voulez les aider, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez savoir comment ces personnes font, ben vous allez sur le site que je vous ai indiqué, hein, sur april.org, dans la page consacrée à l'émission, vous verrez les liens. Je vais signaler peut-être à la régie que je me dis que peut-être qu'on pourrait passer la pause musicale plus tard et enchaîner directement sur le sujet les actions de l'April, si vous êtes OK. Sinon, on fait une pause musicale. Comme tu veux, tu me dis, Étienne, hein, comme je perturbe un petit peu le séquencier, on peut faire la pause musicale tout de suite, tu me dis. Donc je regarde. Et il y a Blanc qui dit c'est très ou trop centré cette émission. Oui, c'est une émission spéciale. Donc voilà, donc on va passer au sujet suivant. Nous allons maintenant faire un court focus sur les actions de l'April. Trois pastilles parmi de nombreuses actions menées. Dans la page consacrée à l'émission, sur april.org et sur causecommune.fm, vous trouverez un lien vers un résumé de nos activités 2020 et le rapport d'activité complet qui a été adopté suite à notre assemblée générale de la semaine dernière. Donc pour cette pastille qui va durer 10-15 minutes, avec moi donc Étienne Gonu qui va quitter la régie, ou pas plutôt quitter la régie, rester en régie mais pouvoir intervenir, et Étienne est chargé de mission Affaires publiques à l'April. Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, et Christian-Pierre Maumont, administrateur de l'April. Donc ça va vraiment être un focus sur trois actions ou trois thématiques importantes, et je renvoie les personnes sur nos articles pour en savoir plus. Donc on va commencer par Étienne.
Ok, salut Fred.
Ben salut.
Enfin, re-salut.
Ben écoute, c'est à toi. Toi, sur la partie dossier, de quoi voulais-tu parler ?
Il y a effectivement un dossier sur lequel on s'est pas mal investi en 2020, du coup, et qui a un résultat assez positif, hein, qui doit certes être encore traduit en actes, mais en tout cas, sur lequel il était intéressant de travailler. Alors, il s'agit de la mission Botorel, hein, sur les données et codes sources produits par les personnes publiques, et plus particulièrement par l'État, et du rapport qui a résulté des travaux de cette mission. Alors, c'est un rapport, le rapport donc, qui a été produit dresse un état des lieux, un état des enjeux pertinents sur le logiciel libre, et il est intéressant car il évite les approximations et on va dire certaines contre-vérités qu'on a parfois malheureusement tendance à voir sur ces sujets dans ce genre de documents. Et en tout cas qui fait preuve par ailleurs d'une belle qualité pédagogique. Alors pour remettre en contexte, au début de l'été 2020, il y a le député Éric Botorel se voit confier une mission d'information par le Premier ministre, donc une mission d'information qui a un poids politique important, dont l'objet est de faire un point sur l'état, on va dire, d'ouverture des données et des codes sources produites par les personnes publiques, et de faire des propositions pour accompagner cette ouverture. Alors il faut bien comprendre le terme d'ouverture, non pas seulement comme le fait de rendre accessible, hein, mais c'est plus largement de penser la réutilisation et la contribution aux codes sources, aux données, au sein des administrations et au-delà même à l'ensemble des personnes physiques ou morales. Alors dans le cadre de cette mission, le député a mené de très nombreuses auditions, hein, mais c'est souvent le cas de ce genre d'exercice, et dont celle de l'April, et il a par ailleurs ouvert une consultation publique en ligne à laquelle l'April a contribué, notamment en rappelant la nécessité d'une part d'une priorité au logiciel libre, hein, que les personnes publiques doivent utiliser prioritairement des logiciels libres dans l'exercice de leur mission de service public, qui est clairement notre demande principale, notre demande phare à l'April, en tout cas celle qu'on porte avec conviction depuis plusieurs années maintenant. Et nous avons également proposé la création d'une mission logiciel libre au sein de l'État pour accompagner une politique d'ouverture et de contribution. D'ailleurs, on va notons que les propositions portant sur le logiciel libre, il y en a eu plusieurs dans cette consultation publique, et en particulier celle de l'April et du CNLL, hein, qui est l'Union des entreprises du numérique ouvert, sont arrivées largement en tête de la consultation, montrant une capacité de mobilisation importante et un vrai engagement pour ces questions du logiciel libre. Et notamment parmi donc ces propositions, celle portant une mission logiciel libre, qui est donc également portée par le CNLL et qui compte parmi les recommandations du rapport qui a été publié par la suite le 23 décembre 2020, pour être précis. Et l'intelligence du rapport sur cette proposition d'une création de mission logiciel libre, c'est que contrairement à ce que fait pu par exemple être proposé de son côté par la Commission européenne. Le rapport met bien en évidence l'importance de donner des moyens concrets et spécifiques à une telle mission, notamment des moyens humains, et c'est fondamental, sinon elle ne pourrait pas produire d'effet, elle resterait lettre morte. Donc voilà, donc on s'est engagé pour ça, on est content finalement, on trouve du moins le rapport pertinent, intéressant. Reste à voir maintenant si effectivement, comme nous l'avons écrit dans notre communiqué, hein, qui est disponible bien sûr sur notre site internet, vous retrouverez le lien comme d'habitude, reste à voir si le Premier ministre sera à la hauteur du rapport. Et donc nous attendons depuis maintenant le mois de février qu'une circulaire soit publiée au journal officiel pour préciser justement comment le Premier ministre entend traduire le rapport en acte sur ces questions du logiciel libre, mais aussi sur les autres considérations. Et on va aussi préciser qu'on a eu le plaisir de recevoir Rick Botorel pour nous présenter son rapport dans le Libre à vous du 19 janvier, et que celui-ci nous avait chaudement remercié pour notre action. Alors je vais le citer, voilà, il nous a parlé d'un dialogue constructif, il a cité notre exigence. Voilà, donc c'est vrai que ça fait toujours aussi plaisir, c'est gratifiant lorsqu'on mène des actions sur ce genre de dossier d'avoir ces retours. Alors Fred, on ne t'entend pas, mais on devrait t'entendre à présent.
Merci, mais en fait, en t'écoutant, je regardais un petit peu le sens sur les commentaires. En fait, le CNLL a changé de nom, même si l'acronyme reste le même, donc je le précise. Et pour détendre un peu l'atmosphère sur le salon, je ne sais pas s'il est tendu, mais visiblement, il y a des gens qui échangent. Je vous encourage à faire un petit peu de guitare sommaire et des lignes de bling et des lignes de blang. Je pense que ça vous permettra de voir la vie autrement. Donc merci en tout cas Étienne. On va passer maintenant à Isabella. Donc Isabella Vanni, chargée coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, et notamment qui s'occupe du groupe Sensibilisation Isabella à l'April. Isabella, un petit point, un petit focus.
Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien ?
Oui, c'est bon, vas-y.
Donc oui, je suis en charge entre autres des projets sensibilisation et j'anime les réunions du groupe sensibilisation qui en ce moment ont lieu un jeudi sur deux. Donc sensibiliser comme déjà le dit le nom, comme le nom du groupe l'indique, notre objectif c'est de sensibiliser notamment le grand public aux enjeux du logiciel libre et des formats ouverts. Et pour le faire, on fait comment? On peut produire différents types d'outils. Ça peut être des pliants, des affiches, ça peut être aussi des goodies comme des t-shirts, des autocollants. On a fait aussi des décalcomanies par le passé, on l'a encore un petit peu. On peut faire aussi des mugs ou d'autres goodies de ce type. On a aussi réalisé un jeu de panneaux qui s'appelle Expo Libre et qui est possible de louer ou d'imprimer. Bien évidemment, toutes nos ressources sont sous licence libre, donc ça veut dire que n'importe quelle personne ou structure peut les télécharger, les modifier, les adapter à ses besoins, les imprimer et les partager, bien évidemment. Et ces dernières années, les projets les plus importants ont été la traduction justement de ces panneaux en italien. Et avec le groupe de travail, on a travaillé notamment sur des quiz autour des enjeux du logiciel libre. On a travaillé aussi autour d'un jeu coopératif et pédagogique, le jeu du GNU, qu'on a pu déjà présenter à l'occasion de différents ateliers. On aurait dû aussi le présenter à l'occasion des journées du logiciel libre qui ont été annulées à Lyon à cause de l'épidémie, mais on espère de pouvoir bientôt reprendre les événements en présentiel. Et en ce moment, on travaille un nouveau projet qui s'appelle La boussole du libre. Et l'objectif de ce projet, c'est de produire une ressource déclinable sous format papier ou page web pour orienter les personnes qui souhaitent franchir le pas et libérer leur informatique. Je tiens à préciser que on sensibilise sous les principes, sous les valeurs, sous les enjeux, sous la philosophie du logiciel libre. Donc, aucune compétence technique est requise. Il faut surtout aimer le logiciel libre et avoir envie de montrer au plus grand nombre comment c'est important de pouvoir contrôler, maîtriser son informatique. Donc, si vous avez des compétences rédactionnelles, si vous avez des tendances dans le graphisme, si vous avez des belles idées de nouveaux goodies, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe, d'autant plus qu'il est ouvert à tout le monde. Il ne faut pas être membre de l'April pour nous rejoindre.
Oui, c'est important de le préciser, c'est que la quasi-totalité des activités de l'April sont ouvertes à toute personne. Et Elodie, tout à l'heure, qui fait partie de l'équipe podcast, n'est pas, à ma connaissance, peut-être que je fais une erreur, membre de l'April. Et donc le groupe Sensibilisation, vous pouvez y contribuer simplement en vous inscrivant sur la liste de travail. Les références sont dans la page consacrée à l'émission, donc le groupe Sensibilisation qui produit beaucoup d'outils de sensibilisation et on espère évidemment de pouvoir les utiliser bientôt dans des événements physiques, mais ce qui ne devrait, on peut dire, plus tarder. Et donc si vous voulez d'ailleurs gagner certains outils qui ont été faits, comme par exemple des autocollants, des dépliants, envoyez-nous un message, nous en vous enverrons des exemplaires, et sinon vous pouvez les commander sur l'excellent site enventelibre.org, sur lequel vous pouvez trouver aussi des DVD et d'autres outils de l'April, et d'autres, de nombreuses associations du libre, je crois qu'il y en a une quinzaine, si je ne me trompe pas, c'est ça Isabella?
Oui, c'est à peu près une douzaine plutôt, je dirais, je n'ai pas vérifié.
Une douzaine, d'accord. Alors, en tout cas, enventelibre.org, c'est un site qui référence plusieurs associations qui vendent, qui mettent à disposition différents outils, soit de sensibilisation ou autres, ou de communication. Mais écoute, merci Isabella. Donc, c'était Isabella Vanni, coordinatrice vie associative, le responsable projet à l'April. Avant de passer la parole au dernier intervenant, on nous signale, bon, des températures dans les différents endroits. Donc, 24 à Paris. Moi, dans ma chambre, il fait 22,5 et dans mon corps, je pense qu'il fait effectivement plus de 38,5, comme le signale Olivier. Donc, n'hésitez pas sur le salon web à nous rejoindre. Site web fait bouton de chat, salon libre à vous, venez participer avec nous. Alors maintenant, on va passer donc au dernier point de cette petit focus avec Christian-Pierre Maumont, qui est administrateur de l'April et notamment animateur de notre Chapril. Je crois que Christian, tu veux nous parler du Chapril. C'est à toi, Christian.
Tout à fait. Bonjour Fred, bonjour tout le monde et bon anniversaire à Libre à vous. La centième, c'est fantastique. Alors, en cette période de pandémie, on a besoin de conserver des liens entre humains, besoin de se voir, de se parler, de pouvoir continuer à faire des choses ensemble. Et le Chapril, c'est permettre ça de façon éthique et loyale grâce au logiciel libre. Pas de traçage, pas de fichage, pas de blocage. Avant tout, c'est le respect de votre vie privée et de vos données personnelles. Avec 220 000 visites par mois, le Chapril montre que c'est possible, que c'est utile et que c'est utilisé. Et si on veut, on peut passer au niveau supérieur dans le sens du collectif Chatons, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et là, ce sont 90 structures qui partagent plus de 400 services en ligne. C'est énorme, c'est là pour vous, c'est là pour tout le monde. Soyez libres, utilisez-les. Aujourd'hui, le Chapril, c'est 13 services, de la visio, de la conférence audio, de la messagerie instantanée, du partage de fichiers, de l'élection de dates, de l'organisation d'événements. Et encore plus, allez voir sur chapril.org. Le Chapril est un des groupes de travail de l'April, et donc s'il existe, c'est grâce à votre soutien de l'April. Donc en conclusion, je vous dirais, devenez coproducteur du Chapril, c'est facile, adhérez à l'April.
Alors, merci pour l'appel à adhérer, Christian, à l'April. On va quand même rappeler qu'on peut contribuer au Chapril sans être membre de l'April. Donc, les deux sites importants, tu en as cité un, c'est chapril.org, sur lequel donc les personnes peuvent trouver les services libres et loyaux que nous proposons. Et le site du collectif des chatons, donc tu insistes sur le S, effectivement, qui est à la fois important parce que c'est le S de solidaire, mais c'est aussi le S du site web, chaton avec un S.org, sur lequel vous trouverez tous les autres membres du collectif, hein, structures et personnes qui proposent de nombreux services d'utilité publique et qui vous permettent de vivre d'ailleurs au mieux les conditions actuelles de la pandémie et au-delà tous les outils de communication. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon, Christian?
Ah, c'est très bien, et puis on va vous mettre des liens dans la page de l'émission pour que vous puissiez en explorer encore plus facilement, et voilà.
Tout à fait, et Étienne sur le salon précise, renvoie qu'il y a un site portail qui est très bien fait, qui est entraide.chaton avec un s.org, donc n'hésitez pas à y aller. Donc c'était mes collègues, Étienne Gonu, Isabella Vanni et Christian-Pierre Maumont sur un petit focus des actions de l'April. Je le rappelle, vous trouverez sur le site de l'April le rapport d'activité 2020 complet et un résumé que vous pouvez consulter en une dizaine de minutes de lecture. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle fin de journée et on va faire une pause musicale. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Sin Papeles par Dumbia Bass Culture Players. On se retrouve dans 3 minutes 28. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles.
Hey. Comment ça va? Liga Doll. Faire le bouc à Ken et son pitié. Como personas, porque dicen somos ilegales, nos llaman los empáticos.
los inmigrantes legalizar y nos meter a todos en la misma cesta. Ser unos sin papeles significa tener valentía, es tenerla para los retos del día a día. Sin papeles, sin voz, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin consideración, sin papeles, sin voz, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin consideración. Ser sin papeles es secarse las lágrimas con el esfuerzo. El que no lo sabe, el porque no lo ha tenido que padecerlo. Aunque a muchos nos miran como criminales, no tienen miedo por ser inmigrante. Resulta que no hacemos daño a nadie, no queremos ver en la gente ese desprecio. Lo único que hacemos es luchar por nuestra familia. Dios creó al mundo, los seres humanos crearon fronteras, pero todos somos iguales. Ah, no debemos dejar a nadie afuera. No debemos dejar a nadie afuera. Sin papeles, sin voz, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin consideración, sin papeles, sin voz, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin consideración.
PLS par Diomba Bass Culture Players, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA. C'était une chanson en hommage et en soutien aux migrants. Le lien vers la musique et les paroles sont indiqués sur la page consacrée à cette émission sur april.org et sur causecommune.fm.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous. Bravo. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
J'avais totalement oublié de l'heure de dire que le fond musical des nouveaux jingles, en tout cas de ces deux jingles que vous avez pour l'instant écoutés, c'est Dolling de Cyber SDF, qui était un artiste français malheureusement décédé récemment, et également un libriste qui s'appelait Laurent Séguin, donc hommage à lui. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. Pour cette centième, une nouveauté, une nouvelle chronique proposée par Laurent Costi, administrateur de l'April, et sa fille Laurette. La chronique est intitulée « À cœur vaillant, la voix est libre ». Vous verrez la transcription pour savoir comment s'écrit « À cœur vaillant ». Laurent, Laurette, vous êtes là ?
Bonjour à toutes et à tous.
Je te passe la parole, Laurent. Et à Laurette.
Bonjour.
C'est à toi, Laurette.
Papa, c'est quoi une adresse IP ?
Pourquoi tu me demandes ça, ma chérie ?
C'est pour mon exposé à l'école.
Ah d'accord. Et bien sûr, ces sujets-là, le plus simple est quand même d'aller demander à ta maman, car elle s'y connaît mieux que moi.
J'ai d'abord commencé par lui demander, mais elle m'a dit qu'elle était très occupée. Elle m'a dit aussi, en rigolant, que tu devrais être capable de repasser le linge et de m'expliquer en même temps, car elle arrive très bien à le faire, elle.
Ok. Quand elle aura fini d'être très occupée, j'irai renégocier le contrat de mariage, mais en attendant, je vais essayer de t'expliquer, ma chérie. Tu es prête ? Bon, allons-y. Il était une fois un monde où Internet n'existait pas. Non seulement c'est la vérité, mais en plus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. La preuve, ton cher papa, âgé de 48 ans, est né à cette époque.
Dinosaure.
Certes, mais avant de remonter dans l'histoire, je vais répondre simplement à ta question. IP, ça veut dire Internet Protocol.
Moi aussi je suis allée lire la page Wikipédia et c'est déjà copié-collé pour la maîtresse, figure-toi. Je sais même que c'est... Attention, accroche-toi bien papa. Un numéro d'identification qui est attribué à chaque périphérique relié à un réseau informatique qui utilise l'Internet Protocol. L'adresse IP est à la base du système d'acheminement des paquets de données sur Internet.
Waouh, plus fort que ta mère ce Wikipédia, même si j'allais le dire. Et puis pour le dire autrement d'ailleurs, c'est finalement le moyen d'identifier une machine sur un réseau. Nous, humains, on aurait préféré donner des noms.
Genre Hippopotame ou Hippocampe.
Ah, c'est mignon. Mais pour les machines, c'est toujours plus simple d'utiliser des chiffres. Ceci étant, sans vouloir te divulgâcher la suite, c'est le rôle du DNS que de faciliter la vie des humains. Mais revenons d'abord à l'IP.
Potame ou Hippocampe?
Potalamus, en fait. Voire même Crit, quand il s'agit des GAFAM. Bref, au tout début d'Internet, il y a eu plusieurs versions du protocole. Et on pensait qu'on serait tranquille avec la version 4. Car cela offrait la possibilité de brancher beaucoup, beaucoup de machines. 2 puissance 32 pour être exact. Tiens, profitons-en pour un test de calcul mental en live. Ça fait combien?
Oh là, 4 294 967 000 et des petites croûtes de pizza. Modulo 42.
Oui, modulo quelques anchois car certaines ne sont pas distribuables pour des raisons techniques. Ça fait quand même beaucoup normalement. Même si tu ne me le demandes pas, ce 2 puissance 32 vient du fait que l'adresse IP en version 4 se présente sous forme d'une séquence de 4 chiffres compris entre 0 et 255 séparés par un point. Par exemple, au lieu de taper https://april.org dans la barre d'adresse de ton navigateur, tu peux taper directement 195.154.56.24 car c'est l'adresse publique du site internet de l'association.
Ok, mais à la fois, 4 milliards, c'est beaucoup. Et à la fois, je sais que dans certaines entreprises, peut y avoir masse d'ordi. Genre, quand je suis venue dans ton bureau l'autre fois, bon, il y avait un gros ordi avec tes mails dessus et un autre plus petit, toujours sous GNU Linux, forcément, avec une partie en cours de Battle for Westnot où t'étais en train de rager, si je me souviens bien.
Tu sais très bien que le travail de papa consiste à vérifier si les ordinateurs marchent bien. Il faut tester toutes les configurations et savoir aller jusqu'au bout, car on ne sait jamais. Mais tu as raison, il y a bien plus de machines que de possibilités laissées par IPv4. D'abord, l'augmentation du nombre d'appareils connectés sur la planète. Il y a déjà eu un blast avec les smartphones. Et maintenant, l'Internet des objets est aussi en train d'exploser le besoin en adresse IP.
Ah mais oui, de ouf! Il existe des toilettes automatiques et immersives pour pouvoir se soulager comme des rockstars. Le site dit que grâce à un système de commande vocale, l'utilisateur peut régler la température du siège, l'ambiance musicale et même la couleur d'éclairage des WC, et que le système est relié à Alexa. Amazon sait que je vais faire caca et peut donc reprendre cette précieuse information à des vendeurs de PQ pour me pousser une publicité au bon moment. C'est ouf de consommer de l'énergie pour stocker des informations comme ça.
C'est pas faux.
C'est quoi que tu comprends pas, PQ ou immersive?
Surtout le fait que les logiciels libres et les services respectueux de la vie privée ne soient pas plus utilisés et que l'on préfère continuer à nourrir les GAFAM. Mais c'est un autre sujet.
Oui, on le connaît, ton cheval de bataille de Troie où tu dis toujours que leur pratique c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres.
L'autre raison qui fait que l'on peut utiliser beaucoup plus d'ordinateurs que le nombre d'adresses IPv4 possible est le fait qu'un système avec des adresses privées pour un usage dans un réseau local uniquement a été pensé. C'est alors le rôle de notre box internet que de faire le lien entre les adresses privées et les adresses publiques.
Mais du coup, comment on sait que la limite du nombre d'adresses va être atteinte? Et surtout, comment on fait pour éviter que ça soit bloqué? Comme d'hab, on contraint les pays les plus pauvres?
Non, c'est moins pire. On confisque et on redistribue les adresses des parents dont les enfants ont des mauvaises notes à l'école.
Cher papa, ton humour n'a d'égal que la perversité de Google, qui offre gratuitement des services pour mieux capter le surplus comportemental.
Tu y vas fort quand même avec moi. Mais oui, tu as raison, ils ont été plus malins. Ils ont anticipé, car dès février 2011, toutes les adresses IPv4 étaient déjà vendues. Ils ont donc conçu la version 6 de l'IP. Ils l'ont d'ailleurs subtilement baptisée IPv6. Tadam ! Et ce n'est plus 2 puissance 32, mais 2 puissance 128 adresses possibles. Je vais éviter de faire mon krasuki, cherche pas, c'est une blague de boomer, on va en rester aux puissances de 2. Mais retiens, ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
L'IPv5, il y a eu un trou comme dans Croque-Carotte et il est tombé dedans ?
Non, je pourrais te dire que 5 est un chiffre impair et qu'il est aussi vert pépère. Mais c'est trop risqué et je vais encore me faire traiter de pervers à la Google, justement. Alors je vais m'abstenir. Pour la faire courte, il y a bien eu un truc qui s'appelait IPv5, mais ça faisait autre chose et ne répondait pas aux besoins. Il y a donc eu un saut à la V6 pour éviter les confusions.
Quand tu dis « ils l'ont subtilement baptisé », tu penses au peuple des petits bonhommes du frigo qui allument la lumière quand on ouvre la porte et qui sont vus assigner de nouvelles missions ?
Non, c'est déjà compliqué avec leurs horaires et les gens qui se font des petits casse-croûtes la nuit. Je pense plutôt en ce qui concerne l'IPv6 à l'IETF. Autrement dit, l'Internet Engineering Task Force.
Qui ça ?
L'Internet Engineering Task Force.
Comprends pas.
Bon ben, l'Internet Engineering Task Force.
Ah, the Internet Engineering Task Force.
Yes, it is. C'est une organisation internationale à but non lucratif. Elle a pour mission d'élaborer et de promouvoir des standards Internet.
Oh, ça prouve qu'on est parfois capable de s'organiser lorsqu'il s'agit de gérer une ressource commune. C'est une belle histoire que tu me racontes là, mon papounet.
Tiens, tu m'as écrit 4 fois inférieur à 3 dans le script, ça veut dire quoi ?
Poche la tête vers la droite, tu comprendras.
Oh, c'est gentil ma puce, à 4 cœurs bien sûr. Bon, sinon, même si l'adresse IP était initialement conçue pour une application technique, elle pose aussi des questions éthiques, car elle peut servir, dans certains cas, à agréger un profil très détaillé d'une personne et de ses activités.
Ah ouais, un peu comme en Chine, c'est pas rassurant. Et au fait, tu m'as parlé de DNS, c'est quoi déjà ? Et comment on fait pour avoir une adresse IP, du coup ?
Penser que ces techniques d'identification ne sont pas utilisées dans nos démocraties serait une erreur, mais comme le DNS, c'est une autre histoire pour un prochain épisode. Il est en effet temps que tu dormes après cette merveilleuse histoire. Bonne nuit, ma puce.
Alors, papa, vraiment, on est au téléphone, il est 16h15. Bon, je raccroche car je dois aller en sport. Mais tu me promets de me raconter la suite, hein ? Allez, la bise, mon papou, potam.
Bise, ma puce au silicium.
Ah bah écoutez, merci pour cette belle chronique et donc de Laurent Costi, administrateur de l'April et de sa fille Laurette. Je félicite Laurette, clap clap clap, pour avoir activé et désactivé son micro à la volée pendant l'échange. Et je félicite les deux personnes pour toutes les références qu'il y a dans la chronique. J'avoue que la référence à Krasuki, moi qui suis effectivement plus de 50 ans, m'a fait beaucoup rire. Alors si vous voulez la comprendre, il suffit d'aller à Henri Krasuki, je vais simplement rappeler que c'était l'ancien secrétaire général de la CGT. Et qui était un syndicaliste et qui s'est rendu notamment célèbre pour une vidéo sur laquelle il essayait d'expliquer faisait un calcul. En tout cas, bravo pour toutes les références donc de cette chronique qui est intitulée donc Hacker vaillant, la voix est libre. C'était une première. J'espère que ça vous a plu. J'espère que sans nul doute la prochaine se passera encore mieux techniquement. En tout cas, j'espère que ça t'a plu toi, Laurent et Laurette.
Ah bah moi j'ai trouvé ça très bien. Alors effectivement c'est très très compliqué, hein. Je soutiens Étienne là qui est tout seul aux manettes avec tout le monde à distance, c'est d'une complexité sans nom quoi. Je l'ai vu préparer pendant une heure avant donc voilà, c'est très compliqué.
Tout à fait, mais en tout cas c'était très bien et félicitations effectivement à Laurette pour avoir joué, enfin activer, désactiver son micro pour éviter qu'on ait de l'écho. Donc c'était la chronique donc de Laurent et Laurette Costi à cœur vaillant, la voix est libre, la prochaine sans doute le mois prochain. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis bon sport à Laurette. On va passer au sujet suivant. Alors, nous allons passer au sujet suivant. Et là, c'est un peu la star de l'émission, parce qu'en fait, c'est lui qui nous reçoit. Notre invité, c'est, on va faire la partie au cœur de Cause Commune. Notre invité, c'est Olivier Grieco, hein, qui est le directeur d'antenne bénévole de la radio. Donc, Olivier, est-ce que tu m'entends ? Parce que je ne sais pas s'il est sur Mumble ou Studio.
Alors on l'attend, il n'est pas, il est à l'étage, je pense.
Ah, il est à l'étage. Alors,
je l'imagine en train d'accourir.
Non, mais on va passer à la pause musicale à ce moment-là. On passe à une pause musicale.
Ok, faisons une pause musicale.
Alors, nous allons écouter Side Effect par Fog Lake. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Side Effects par Fog Leck, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Alors, c'est les joies d'être à distance, je ne savais pas qu'il restait encore un petit peu de son. Le site de l'artiste, c'est sur Bandcamp, c'est Fog Leck, hein, foglake.bandcamp.com.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Donc nous allons passer à une interview intitulée « Au cœur de Cause Commune », car là, c'est pas nous qui recevons, c'est Olivier qui nous reçoit, vu que notre invité, c'est Olivier Grieco, le directeur d'antenne bénévole de la radio Cause Commune, donc qui a descendu l'étage pour rejoindre le studio. Est-ce que maintenant tu es avec nous,
je
Olivier?
Suis là. Je suis là.
Tu es là.
Oui.
Alors déjà, merci de nous recevoir chez toi.
Avec plaisir. Voilà.
Même si moi, je suis chez moi, mais en fait, nous sommes chez toi. Alors, on va y faire une petite interview pour que les gens te connaissent mieux et puis connaissent un petit peu mieux la radio Cause Commune. Donc, première question un petit peu habituelle. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
À part recevoir l'émission de la prime sur les ondes de Cause Commune, tu veux dire?
Tout à fait.
Ouais. en fait, je suis pas grand chose d'autre que n'importe qui se retrouverait un jour en position de parler dans un micro et de permettre à d'autres de le faire. Bon, si on voulait être un peu plus technique dans la présentation, je suis diplômé de sciences humaines. J'ai eu un parcours professionnel un peu, j'allais dire chaotique, mais c'est pas le cas, plutôt varié et divers, jusqu'à en 2014, décider de monter non pas une radio, mais une asso, qui est devenue ensuite notamment une radio.
D'accord. Alors, avant de parler de l'association, quel est ton historique avec le média radio? Déjà, en tant qu'auditeur, est-ce que tu écoutais la radio quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu écoutais? Quel est ton historique avec la radio?
En fait, oui, assez. J'ai toujours aimé ce médium. C'est toujours, beaucoup plus que n'a jamais exercé d'attraction la télé. Par exemple, la radio a toujours été un truc que j'ai apprécié en étant ado et puis plus tard jeune adulte et puis après quasiment vieux. Donc oui, le média en lui-même, cette possibilité de rentrer ou que quelqu'un rentre dans ton oreille via un poste de radio m'a toujours semblé assez rigolo et surtout attirant. Et du coup, j'ai toujours eu en tâche de fond, même si j'ai jamais orienté aucune de mes expériences professionnelles ou bénévoles vers ce média, en tout cas jusqu'à assez tardivement en plus, en fait, puisque je suis arrivé à la radio seulement autour des années 2000, j'ai toujours eu cette intuition que être derrière un micro, être du côté de ceux qui causent, pouvait être une expérience intéressante. Et il se trouve que par hasard, j'y ai finalement accédé, comme je disais, au tout début des années 2000 et que je ne l'ai pas quitté.
Alors, tu parles des années 2000, Cause Commune, la radio, c'est 2017, on va revenir juste après. Donc, en 2000, c'était où? Dans quelle radio?
Alors, en 2000, j'étais pas encore... Alors, en 2000, j'étais sur une radio associative, en 2001, pour être plus exact. J'étais sur une radio associative qui s'appelle Ici et Maintenant, qui est née au tout début des années 80, à l'ère de la libéralisation de la bande FM, Ici et Maintenant étant, comme beaucoup de ses consoeurs, encore pour certaines, en région notamment, présentes sur la bande FM, une radio pirate qui a commencé à émettre avant l'année 1981 et la possibilité donnée aux radios privées, donc les radios locales et les radios associatives, d'émettre de manière légale. Donc voilà, c'est tout à fait par hasard que je me suis retrouvé un samedi après-midi de 2001 derrière le micro en tant qu'invité de cette radio, et c'est d'invité que assez rapidement je suis passé à animateur sur cette radio que j'ai quitté en 2013.
Donc tu as passé plus de 10 ans en fait en tant qu'animateur.
Oui, en tant que bénévole. Alors avec des périodes plus ou moins intenses en termes de participation, puisque entre 2001 et 2004, j'avais une activité professionnelle qui me permettait d'être assez régulièrement à l'antenne et de faire partie de l'équipe des permanents. Je l'ai quitté en 2004 pour prendre un job un peu plus intense, et c'est celui qui a accompagné ma carrière jusqu'en 2014. Et puis j'y suis revenu sur demande de la direction de cette radio une fois par semaine à partir de 2008 ou 2007 pour animer les après-midi autour de l'aide à l'usage des outils informatiques.
D'accord. Donc là, maintenant, c'est la radio Cause Commune.
Ouais.
Tu as parlé d'une association Libre à Toi. Je te demandais de présenter l'association Libre à Toi et d'expliquer pourquoi tout d'un coup vous êtes... Enfin, tout d'un coup... Pourquoi vous êtes passé d'une web radio Libre à Toi à une radio bande FM quand le CSA a ouvert la demi-fréquence 93.1 en 2017?
Ouais, alors du coup, comme je le disais, à la base, Libre à Toi n'a pas été pensé pour occuper à aucun moment une fréquence FM. Libre à Toi a été pensé comme ce qu'on appelait à l'époque un petit peu en manière de pied de nez à toute cette vague des tiers-lieux qui, pour la plupart, étaient essentiellement, dont le concept était essentiellement trusté par des startups à la con qui réinventaient le coworking en utilisant un concept qui nous venait de la sociologie américaine du milieu des années 80, la logique de tiers-lieu. Donc nous, on s'est présenté comme un tiers-lieu transmédia d'éducation populaire. Donc l'idée, c'était de construire en fait une plateforme numérique qui croise sur certains espaces spécifiques un certain nombre d'informations qu'on avait envie de traiter sous un angle particulier, qui était celui des communs. Alors je précise, notre idée en créant Libre à Toi, c'était de répondre à quelque chose qui nous énervait beaucoup dans la vie de tous les jours. C'était tous ces gens qui disaient qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix de consommer comme ils le faisaient, ils n'avaient pas le choix de travailler comme ils le faisaient, ils n'avaient pas le choix d'éduquer leur môme comme ils le faisaient, ils n'avaient pas le choix d'utiliser leur bagnole plutôt qu'autre chose. Et nous, on s'est dit, en fait, des alternatives, il y en a 50 000 et dans tous les domaines qui nous constituent en tant que citoyen, au sens d'être politique, notre idée, c'était de proposer à tous ces gens ces dites alternatives en les distribuant sur différents supports. Alors, on avait dans l'idée, en créant Libre à Toi, d'avoir un support sur trois secteurs. Donc, une éditorialisation en ligne, au travers de papier, comme ça se fait dans n'importe quelle plateforme d'information en ligne, d'avoir les versions audio de ces mêmes informations et d'avoir des possibilités in situ d'organiser des événements toujours en lien avec ces dites informations. En gros, je prends un thème, peu importe, l'agroécologie, on peut en avoir un papier fouillé sur un site d'information, on peut avoir un podcast qui, en interviewant certaines des personnes qui peuvent faire autorité dans l'explication de ce que serait l'agroécologie, voilà, serait un autre support. Et puis, pourquoi pas organiser une table ronde autour de l'agroécologie. Donc, en fait, l'idée, c'était que sur l'agroécologie, on puisse avoir trois moyens différents d'accéder à la même information, mais pas tout à fait la même, en fait, puisque quand tu fais de l'audio, tu fais pas la même chose que quand tu fais de l'écrit, et tu fais pas la même chose que quand tu reçois des gens en table ronde. Voilà, c'était ça l'idée de Libre à Toi comme tiers-lieu d'éducation populaire.
Éducation populaire.
Ouais.
Alors, Le temps file. Qu'est-ce qu'apporte le fait d'être une radio FM?
Ouais, alors du coup, ça, j'ai pas répondu à ta question. C'est comment on a basculé d'une web radio. Donc, il y avait trois branches. Il y avait un site web où on faisait des articles d'information. Il y avait certains événements qu'on avait commencé à organiser autour de ces mêmes thématiques. Et puis, il y avait donc la fameuse web radio qu'on a en fait opérée à peu près 6 mois, à partir de janvier 2016 jusqu'à juillet, août 2016, jusqu'au jour en fait où je vois passer un appel à candidature du CSA sur la libération d'une demi-fréquence à Paris. Et bah, c'est un petit peu toujours parce que j'ai cette manière un peu de fonctionner. Quand les choses apparaissent impossibles, j'ai toujours tendance à dire que tant qu'on ne l'a pas tenté, bah, on ne peut pas se dire que c'était impossible. Et c'était surtout dans l'idée de ne pas regretter de ne pas avoir joué. Donc j'ai proposé à mes camarades de nous lancer dans l'aventure de l'appel à candidature. Voilà, c'est comme ça en fait. C'est tout à fait par défi et par opportunité, puisque ça n'était pas arrivé depuis le milieu des années 90, hein, la libération d'une fréquence FM à Paris. La dernière à avoir été autorisée à Paris, c'était Fréquence Paris Pluriel, si je ne me trompe pas. Donc tu vois, ça datait de 92, je crois. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on s'est retrouvé à concourir, et c'est au final comme ça qu'on s'est retrouvé à gagner. Alors qu'est-ce que ça change? Bah déjà, moi je suis de ceux qui considèrent que le podcast ne remplace pas la radio, les plateformes numériques ne remplacent pas la radio, ce lien unique avec l'auditeur, tu ne l'as qu'en radio. Alors on est voilà, ça veut pas dire que ce sont deux médias qui s'opposent, mais en tout cas ce sont deux médias qui auraient tout intérêt à être envisagés comme complémentaires plutôt que l'un venant remplacer l'autre. Donc bah, si on s'en réfère à l'historique, évidemment que je ne pouvais qu'être heureux et fier à la fois de pouvoir bah, coller du coup au plus près de ce qui m'avait un peu bercé quand j'étais môme et que j'écoutais la radio la nuit tard, bah voilà, de disposer à mon tour de la possibilité de pouvoir construire de A à Z un média.
D'accord. Je veux juste préciser qu'il y a une question sur le salon web de ma cousine, donc qui est une fidèle auditrice et je pense qu'il t'a écouté déjà à l'époque d'ici et maintenant. C'est à l'April, ça vous plaît de la faire radio la question? Oui, pour les mêmes raisons que vient d'évoquer en fait Olivier, à la fois les raisons historiques, on est à peu près de la même génération et moi aussi j'ai passé des nuits à écouter la radio, et puis aussi parce qu'effectivement la radio ça permet de toucher par rapport à un podcast du grand public, parce qu'un podcast les gens en fait te cherchent, donc c'est des gens qui s'intéressent déjà à un sujet, alors que sur la radio bah, y a des gens qui vont simplement tomber sur la fréquence ce jour-là, t'écouter et te découvrir, et donc c'est franchement quelque chose d'essentiel dans nos activités. Et en plus, le fait de le faire sur une radio qui s'appelle Cause Commune et avec laquelle on partage des valeurs, eh ben c'est essentiel. Donc c'est aussi voilà, pour répondre à ma cousine. Alors la radio, j'ai dit tout à l'heure, tu étais directeur d'antenne bénévole de la radio. Comment elle fonctionne la radio d'un point de vue humain et d'un point de vue financier?
Bon, alors d'un point de vue humain, elle fonctionne comme j'imagine n'importe quelle autre association, puisque elle repose essentiellement sur le don de temps et de compétences que les uns et les autres, en accord avec le projet qu'on porte, souhaitent nous donner, enfin souhaitent donner au projet. Donc voilà, ça c'est un des premiers plans sur les aspects humains. Alors t'imagines que, enfin tu l'as vécu Fred, puisque tu étais là aux prémices de la radio et que tu es toujours là, et que donc tu as vu passer un certain nombre de personnes. Voilà, c'est la vie d'une association classique. Alors ça rend d'autant plus le truc un peu saillant. J'entends par là que c'est la permanence des contributions n'est pas homogène, et c'est d'autant plus saillant dans une radio qu'elle est censée néanmoins permettre une certaine homogénéité dans ses contenus et surtout une permanence dans la présence des personnalités à l'antenne, ou en tout cas des contenus proposés. Alors bah, pour te dire comment ça marche, bah, ça marche bien parce qu'on arrive vaille que vaille, les gens arrivant, certains autres partant mais d'autres restant, de constituer au bout de 3 ans une équipe qui commence à tenir la route et dont on espère qu'elle tiendra dans le temps. Mais effectivement du coup le résultat c'est qu'au bout de 3 ans, alors qu'on partait de rien hein, en termes de programme, en termes de construction de la ligne éditoriale, même si le projet lui-même impliquait une ligne éditoriale, on en arrive voilà à un produit à l'antenne qui peine à avoir encore au bout de 3 ans l'intégralité des programmes qu'on souhaiterait avoir pour remplir au maximum l'antenne de produits originaux. Alors après, tu posais la question financièrement, comment ça tient? Bah, ça tient essentiellement des dons qui nous sont faits, alors soit par des structures associatives, soit par des particuliers, en fait les deux. Et également, depuis cette année, puisque jusqu'à présent, on n'avait pas encore joué, notre statut de radio associative nous donne accès à un fonds du ministère de la Culture qui est historique, hein, qui date de la création des radios libres en fait en 1981, qui s'appelle le Fonds de soutien à l'expression radiophonique et qui est abondé par une ponction des recettes publicitaires des radios commerciales. Alors ce fonds a un peu vécu hein, depuis 1981. D'abord, il permettait aux radios d'assumer annuellement, via la subvention de fonctionnement, jusqu'à 80% de son budget de fonctionnement, donc ce qui était pas mal. Aujourd'hui, on tourne plutôt autour de 40-45%, parce que Sarkozy est passé par là dans les années 2007 notamment, et que très pote avec Bolloré notamment, ou encore Lagardère, les ponctions réalisées sur les réseaux commerciaux que ses amis détenaient, évidemment, ont eu tendance à se réduire. Mais c'est un des principaux abondements du budget de fonctionnement de la radio vient depuis 2020 de ce fonds de soutien à l'expression radiophonique.
D'accord. Alors, dernière question, je précise en régie que nous ne diffuserons pas la chronique suivante, parce que c'est très intéressant ce que raconte Olivier, donc je préfère donner la priorité. Si quelqu'un se dit, moi, Cause Commune, ça me parle, le projet qui est sur le site, on le rappelle, hein, causecommune.fm, ça me parle, et j'aimerais proposer un projet d'émission, une maquette, comment cette personne doit faire? Est-ce que c'est possible?
Alors oui, bien sûr, c'est possible et on se distingue pas du tout de nos consoeurs radio associatives. Chacun, et c'est un peu l'intérêt d'avoir fait une radio associative aussi, chacun qui aurait à partager une envie, une connaissance, une compétence, entrant évidemment en phase avec la ligne éditoriale de la radio, est tout à fait fondé à nous le faire savoir. Et d'ailleurs, la majorité des émissions qui sont à l'antenne aujourd'hui viennent de ça. Ce sont des gens, tu vois, Encyclique qui est arrivé récemment nous est venu comme ça, Anamorphose nous est venu comme ça. Voilà, c'est un mail qu'on nous envoie. Voilà, j'écoute la radio, j'aimerais bien faire ce truc-là, ça me semble plutôt collé avec ce que vous avez envie de proposer. Généralement, on se rencontre et assez rapidement, l'émission est à l'antenne. Donc oui, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on en parle.
Et j'en profite pour signaler qu'il y a des émissions très variées sur Cause Commune, hein, que les podcasts sont disponibles. Te remercie aussi pour le traitement des podcasts, parce que ça fait partie du travail de l'ombre et qui est important. Donc d'encourager évidemment les gens qui souhaiteraient éventuellement proposer une émission, d'écouter, ça peut être sous différents formats, de proposer une maquette et on t'envoie directement, on te contacte via le site web,
je suppose. Bah écoute, là le truc c'est que il faudrait pas qu'on croie que je suis le seul à décider de ce qui est à l'antenne ou pas, parce que c'est pas du tout la réalité. Et du coup non, en fait d'abord c'est un mail, du coup on dit aux gens de passer et généralement les gens qui passent se retrouvent à discuter de leur projet avec les personnes qui sont là, et je suis pas nécessairement là. Et puis du coup si ça match, si ça colle, on descend assez rapidement en studio, même si la personne n'a pas de maquette. En fait, la plupart du temps, les gens n'ont pas de maquette. On propose d'enregistrer cette maquette au studio, et puis on se lance pour une première diffusion.
D'accord. Merci Olivier. Je vais rappeler donc l'April qui participe à cette belle aventure que représente Cause Commune. Nous en sommes très heureux et heureuses. N'hésitez pas à contribuer si vous le souhaitez par un don au niveau de l'association, hein, causecommune.fm, vous avez un don. Vous pouvez aussi aider la radio en mode bénévole ou proposer une émission. Et voilà. Et en tout cas, c'est un super plaisir pour répondre à la question à nouveau de ma cousine tout à l'heure. C'est un super plaisir de participer à cette aventure. Et je te remercie ainsi que le reste de l'équipe bénévole de Cause Commune.
C'est nous qui vous remercions, Fred et tous et toutes.
Merci Olivier. Allez, à bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao. Allez, annonce de fin. Alors, dans les annonces de fin, il y en aura juste une. C'est une émission spéciale, la centième. Donc, on vous propose un rendez-vous à 17h, juste après l'émission. Auditeurs et auditrices de l'émission, vous aimeriez peut-être échanger avec nous. Vous avez peut-être envie de nous poser des questions, de nous faire des remarques sur l'émission. Bien sûr, vous pouvez nous contacter par courriel sur les moyens indiqués sur les sites. Mais vous préférez peut-être un échange convivial dans lequel on se voit nos têtes. Et bien, pour cela, on vous propose un petit rendez-vous en visio. Donc, ça sera à 17h sur le site visio.libravou.org. Je répète, visio.libravou.org. Donc on sera quelques minutes avant de rentrer chez soi ou d'y rester pour les personnes qui sont chez elles, comme c'est mon cas. Donc on se retrouve tout de suite si vous le souhaitez, et dans quelques, enfin disons dans deux minutes, même pas. Alors notre émission centième se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Étienne de Gonu, Isabella Vanni, Christian Maumont, Jean-Christophe Becquet, Elodie Daniel Giraudon, Laurent Costi, Laurette Costi, Olivier Grieco, Laure Élise Daniel. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Lang 1, Sylvain Kutzmann, et on remercie Olivier Imbert pour ses contributions et lui souhaite bonne continuation. Merci également à Olivier Grieco, directeur d'antenne qu'on vient d'entendre, qui finalise la mise en ligne des podcasts. Également merci à Quentin Gibault qui fait le découpage des podcasts par sujet. Vous retrouverez sur april.org et sur causecommune.fm une page avec toutes les références utiles, ainsi que les moyens de nous contacter. Vous pouvez nous faire des retours, nous indiquer ce qui vous a plu, mais également des points d'amélioration, et nous poser toutes questions. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, et faites connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 6 avril 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la communication visuelle et les logiciels libres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 6 avril 2021. Et d'ici là, portez-vous bien.